Le journal est présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Sur tous les fronts et dans toutes les arènes, parlementaires comme médiatiques, Jean Castex défend depuis ce matin ses orientations, comme ses ministres d'ailleurs. Retraite, assurance chômage, Ségur de la santé. Le nouveau Premier ministre entend se démultiplier et prévoit par ailleurs, pour rééclairer l'action publique d'une vision de long terme, la création d'un poste de haut commissariat au plan. C'est une très relative note d'optimisme. Le recul du produit intérieur brut en France cette année devrait être limité à 9% selon l'INSEE. C'est mieux que la contraction envisagée par l'État comme la Banque de France. Et puis c'est encore dans le contexte de cette crise sanitaire, de ses conséquences sur l'économie, qu'Angela Merkel s'exprimera cet après-midi devant le Parlement européen réuni à Bruxelles. Après quelques jours de congratulations et autres déclarations de bonnes intentions se voulant rassurantes, le nouveau gouvernement de combat dirigé par Jean Castex a fait ses tout premiers pas ce matin au cœur de l'arène parlementaire avec la traditionnelle séance des questions d'actualité. Un double baptême du feu en réalité, puisqu'après l'hémicycle de l'Assemblée assez largement acquis à la majorité présidentielle, le Premier ministre affrontera cet après-midi les tirs nourris des sénateurs dans l'enceinte cette fois-ci du Palais Bourbon dominé par l'opposition de droite. Et puis, invité un peu plus tôt ce matin de nos confrères de RMC, le chef du gouvernement a par ailleurs avancé quelques pistes pour la suite, en particulier rouvrir le dialogue sur la réforme des retraites avec les syndicats, décaler la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage et enfin créer dans les prochains jours un poste de haut commissaire au plan. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Alors l'idée en l'occurrence fait plutôt référence à l'ancien monde, puisque ce poste disparu des institutions françaises depuis 14 ans avait été créé par un certain général de Gaulle au lendemain de la dernière guerre mondiale pour relever l'économie. Dès lors, Anne, faut-il y voir là une manière pour le nouveau chef du gouvernement de revendiquer son statut de gaulliste social?
Oui, et c'est d'ailleurs tout à fait assumé à écouter le Premier ministre ce matin sur RMC.
On m'a présenté, quand je suis arrivé, comme gaulliste social.
Oui.
Je pense, au-delà des personnes, pardonnez-moi, qu'il faut rééclairer l'action publique d'une vision de long terme. Alors le mot plan avait un peu disparu du vocabulaire parce que ça rappelle un peu, d'accord ? Alors, il faut recréer des outils de prospective.
Donc il y aura un commissaire au plan.
Oui, je le souhaite.
Jean Castex, interrogé par Jean-Jacques Bourdin. Alors il y a une part de symbolique dans cette annonce parce qu'effectivement, si le mot plan a disparu, la structure créée sur une idée de Jean Monnet n'est pas complètement morte. Elle s'est muée en centre d'analyse stratégique et depuis 2013, c'est France Stratégie qui joue en partie ce rôle. France Stratégie, instance rattachée à Matignon et dont le nom administratif est le commissariat général à la stratégie et à la prospective. Mais ici, l'appel à l'imaginaire gaulliste rencontre la réalité de la crise sanitaire en matière de santé, d'économie ou encore sur les enjeux de l'écologie. Pour le Premier ministre, le travail fourni par les experts de France Stratégie ne va plus assez loin. Au-delà des nombreuses études de qualité, de l'évaluation des politiques publiques, on parle désormais de refonder le système de santé, de plan de relance et donc d'action. Reste à savoir comment la nouvelle structure s'appuiera sur la coquille existante. En ce qui concerne la personne pour porter, ça devient clair. Le Premier ministre n'a pas exclu ce matin de nommer François Bayrou, le président du Modem, réélu à Pau. Une ombre au tableau, néanmoins, François Bayrou est toujours mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics.
Merci Anne Fauquemberg. Alors ce matin, Jean Castex, toujours lui, a également dit avoir bon espoir de conclure le Ségur de la santé, cette vaste concertation visant notamment à revaloriser les salaires du personnel hospitalier, et ce grâce à l'abondement des enveloppes mises sur la table. Hier soir, coup de théâtre, le nouveau Premier ministre s'est en effet invité à une réunion avec les syndicats en annonçant une rallonge de plus d'un milliard d'euros pour les salaires. Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, malgré ce nouveau geste financier, Wafia, les syndicats se sont dit, eux, déçus de cette nouvelle séance de négociation. Pour quelle raison ?
Il intervient effectivement dans les dernières heures de négociation, donc, pour le Ségur de la santé. Après 7 semaines de discussion, Monsieur Castex a dans sa besace pas moins d'1 milliard d'euros, la création de nouveaux postes. On table donc désormais sur 7 milliards d'augmentation de crédit dédiés à l'hôpital public. Le gouvernement a aussi promis la création de postes supplémentaires, 15 000 selon nos confrères des Échos. Une revalorisation des salaires promise par Emmanuel Macron en pleine crise du Covid pour les personnels soignants, techniques et administratif de l'hôpital public. Les syndicats espéraient au moins 300 euros d'augmentation sur les salaires. Ce qu'ils craignent aujourd'hui, c'est d'obtenir deux fois moins pour les infirmières et les aides-soignantes. Par ailleurs, cet argent posé sur la table ne permet pas, selon eux, d'augmenter convenablement les personnels administratifs et techniques des hôpitaux. C'est ce que dit notamment la CFDT. Le syndicat estime que pour attirer des personnels à l'hôpital, il faut d'abord augmenter réellement tous les salaires. Les discussions se poursuivent cet après-midi autour de Nicole Notat, nommée par le gouvernement pour mener le débat avec les organisations syndicales. Les arbitrages suivront ensuite dans les jours qui viennent au sein du gouvernement. Le chef de l'État pourrait se réserver l'essentiel des annonces sur ce dossier lors de son discours du 14 juillet. Emmanuel Macron a annoncé il y a plusieurs semaines déjà qu'il rendrait ce jour-là hommage aux soignants.
Merci Wafia Kenich. Voilà plusieurs semaines maintenant que la casse à l'œuvre dans plusieurs secteurs de l'économie se décline quasi quotidiennement et aujourd'hui encore, qu'il s'agisse des marches organisées par les salariés d'Airbus, Alcatel-Lucent, Sanofi. Nombre de rassemblements sont prévus de Toulouse à Paris donc pour rappeler combien derrière les doux mots de plan de sauvegarde de l'emploi, près de 200 au total lancés en France entre le 1er mars et le 5 juillet, se cachent en réalité le plus souvent des suppressions de postes et sans doute que c'est sans doute dans ce contexte que le moindre regain d'optimisme est donc à signaler. Or, c'est le cas en particulier avec ce matin la note de conjoncture publiée par l'INSEE. Marie Vienneau, bonjour.
Bonjour.
On y découvre notamment que la récession en France devrait être cette année de 9%. C'est mieux que la contraction envisagée par l'État et la Banque de France. On parle ici de 1 à 2 points d'écart. Qu'est-ce qui explique, Marie, cette différence?
Oui, bien d'abord, les prévisionnistes ne sont pas les mêmes. L'INSEE a les siens, Bercy aussi, et si ceux de Bercy s'appuient sur les données collectées par l'INSEE, ils en savent plus sur les projets du gouvernement et leur éventuel impact sur la croissance. Ensuite, l'incertitude est telle que possible que les prévisionnistes de Bercy aient volontairement été pessimistes pour se donner une chance d'être par la suite agréablement surpris. Troisième raison, c'est pour la présentation du troisième budget rectificatif début juin que le ministère des Finances a estimé à 11% la baisse du PIB. Or, les estimations de l'INSEE reposent notamment sur un sondage mené auprès des entreprises la première quinzaine de juin. L'incertitude était toujours de mise, mais moins que les 15 jours précédents. La consommation des ménages n'est dorénavant que 3 points en dessous de ce qu'elle est habituellement, nous dit l'INSEE. Donc cela contribue aussi à rajouter des points de PIB. Après 5% de baisse au premier trimestre, 17% en second, au troisième trimestre, le produit intérieur brut rebondirait de 19% selon l'INSEE, puis 3% au quatrième. Les premières marches de la reprise ont pu être gravies plus rapidement que prévu, mais ce sont les dernières qui seront les plus difficiles, écrit l'Institution nationale de statistique, et c'est notamment pour les secteurs qui n'ont pas repris, c'est-à-dire le transport aérien et les spectacles. Autre difficulté pour les entreprises qui exportent et dont les carnets de commandes restent peu garnis, l'INSEE prévoit une chute des exportations d'un tiers en 2020. Cela aura fatalement des conséquences sur l'emploi dans les entreprises qui dépendent des achats de l'étranger et sont essentiellement des entreprises industrielles, celles qui annoncent justement en ce moment des restructurations.
Merci Marie Vienneau. Face à la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, les premières mesures d'urgence pour redresser l'économie intègrent-elles suffisamment l'enjeu climatique? À en croire les conclusions du très sérieux Haut Conseil pour le climat, et en dépit des promesses martelées par l'exécutif, eh bien il semblerait que la France se tienne encore très loin aujourd'hui de ses objectifs. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
C'est en tous les cas ce qui ressort donc cette année encore du rapport très critique publié par cette instance indépendante chargée d'évaluer la stratégie des politiques publiques. En clair, Véronique, les mesures de relance annoncées au lendemain de la crise n'iraient pas dans le bon sens.
Non, ces premières mesures prises par le gouvernement pour relancer l'économie n'intègrent pas suffisamment l'enjeu climatique. Il faudrait impérativement rectifier le tir dans le futur plan global de relance, avertit le HCC, le Haut Conseil pour le climat. La présidente du HCC, Corinne Le Cayrot, donne la méthode à suivre, la seule possible. Il faut insérer le plan de reprise dans les limites du climat et non l'inverse. Il y a, selon elle, plein de mesures qui sont cohérentes avec l'emploi, la santé et le climat. Et le rapport du HCC de citer la rénovation des bâtiments, l'amélioration de l'agriculture, l'industrie et les transports publics. Il faut mettre du vert partout, avoir une approche d'ensemble, un pilotage ferme, estime Corinne Le Cayrot, arrêter de prendre des mesures qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre, comprendre que ce n'est pas les secteurs automobiles et aériens qu'il faut privilégier, surtout, lit-on dans le rapport, sans conditionnalité ferme concernant leur évolution vers une trajectoire compatible avec les objectifs nationaux. Ces objectifs, eh bien, le Haut Conseil pour le climat les rappelle, baisse de 3% de nos émissions de CO2 par an à partir de 2025. En 2019, l'an dernier, la baisse n'a été que de 0,9%. Voilà qui donne une petite idée du changement de cap à opérer. Encore un gros effort.
Merci Véronique Robérotte. Véritable virage idéologique ou simple pas de côté pour éviter une explosion de la zone euro, quoi qu'il en soit. La chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays assure depuis le 1er juillet la présidence tournante de l'UE, s'attachera cet après-midi à rappeler l'urgence de voir aujourd'hui les 27 adopter le plan massif de relance imaginé pour surmonter les conséquences de la crise sur le vieux continent, sauf que la tâche, Ludovic Piétenu, s'annonce pour le moins délicate compte tenu de la réticence encore de certains États membres à accepter l'idée même d'une mutualisation partielle des dettes.
Le profil d'Angela Merkel semble taillé sur mesure pour ce poste. Elle dispose d'une grande légitimité, d'une forte popularité en Allemagne et hors des frontières. Elle est habile, elle sait écouter, négocier, trouver des compromis et dispose d'une expérience incomparable. Elle détient le record de longévité politique en Europe. Elle a même déjà officié comme présidente de l'Union il y a 13 ans, mais cette fois-ci le contexte est clairement différent. La chancelière résume l'enjeu en un slogan.
Gemeinsam. Europa wieder stark machen.
Tous ensemble pour relancer l'Europe. Ce slogan prononcé par Angela Merkel devant les députés allemands il y a quelques jours et qu'elle devrait redire aujourd'hui devant les eurodéputés insiste sur un point. Tous ensemble, tous les Européens doivent faire front. Claire de Mesmer est chercheuse à la DGAP, l'Institut allemand de politique étrangère, à Berlin.
C'est vrai qu'il y a et il y aura pendant le prochain semestre une tension qui sera inhérente à cette présidence entre affirmation d'un choix qui est très clair avec le fonds de relance. L'Allemagne s'est vraiment avancée et puis essayer d'écouter des États qui s'opposent à ce plan de relance pour trouver un compromis qui soit acceptable pour absolument tous les États membres.
Les tractations sont déjà très nombreuses ces jours-ci. La présidence allemande s'active, beaucoup de choses se jouent dès le début avec en fin de semaine prochaine le premier Conseil européen avec Angela Merkel aux manettes.
L'inquiétude face à la recrudescence de la pandémie de Covid-19 se renforce en Australie. Ce matin, le Premier ministre a annoncé qu'il allait probablement restreindre les retours de ses citoyens et résidents permanents en provenance de l'étranger. Hier déjà, les habitants de Melbourne, deuxième ville du pays, avaient eux reçu l'ordre de rester confinés pour au moins 6 semaines. Après avoir maîtrisé la première vague de l'épidémie, la Serbie enregistre elle aussi un rebond du nombre de cas de contamination et c'est ainsi que les habitants de Belgrade ont appris qu'ils allaient à nouveau devoir rester enfermés chez eux pendant le week-end. Alors aussitôt, des milliers de personnes se sont rassemblées hier devant le Parlement pour exprimer leur colère. Et pourquoi ? Parce que tous, en réalité, reprochent aujourd'hui au chef de l'État d'avoir levé de manière accélérée les mesures initiales de confinement dans le seul but d'organiser, c'était le mois dernier, des élections remportées haut la main par le parti au pouvoir. C'est une correspondance signée Laurent Rouy.
L'annonce d'un nouveau couvre-feu a mis le feu aux poudres et environ 5000 protestataires se sont regroupés devant le Parlement hier soir à Belgrade alors que des manifestations avaient lieu dans 2 autres villes. En cause, la gestion catastrophique de l'épidémie de Covid par le gouvernement. Alors que des élections générales avaient été organisées le 21 juin, le gouvernement avait déconfiné brusquement, autorisé les grands rassemblements et maquillé le nombre de nouvelles infections pour donner l'illusion d'une vie normale et inciter les électeurs à se rendre aux urnes. Depuis, le nombre de nouveaux cas ne cesse d'augmenter et dans au moins 3 villes, la situation risque d'échapper à tout contrôle. Très vite, la police est débordée par le nombre. Certains manifestants lancent des projectiles aux forces de l'ordre qui répliquent par des lacrymogènes. Au beau milieu de la nuit, des groupes parviennent à pénétrer le Parlement avant d'être chassés par la police. Bilan, 43 blessés au moins et 23 arrestations. Alors que le président Vučić est accusé d'avoir manipulé grossièrement les élections de juin, l'opposition hurle à la dictature et appelle à une nouvelle manifestation aujourd'hui à 18h. Difficile de prévoir ce qui pourra se passer.
Une semaine après l'entrée en vigueur à Hong Kong de la loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine, perçue par l'opposition démocrate locale comme un moyen de la réduire au silence, Pékin a ouvert aujourd'hui rien de moins qu'un organe de sécurité pour superviser l'application de la loi, manière pour le pouvoir central d'étendre un peu plus encore son emprise sur le territoire dit semi-autonome. Et ultime provocation, c'est dans un hôtel qui domine le parc Victoria, l'un des principaux points de rassemblement des manifestants pro-démocratie, été installé donc le tout nouveau quartier général des agents du renseignement chinois. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi mitigé au nord, avec un ciel le plus souvent couvert et ensoleillé sur une large moitié sud. Quant aux températures, elles afficheront entre 18 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.